Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Ronelyne Timodera.
Très heureux, je vous retrouve pour cette seconde livraison de nos informations en temps réel. C'est Radio Kapi. À la une de l'actualité, c'est la province du Haut-Ouélé où des déplacements massifs de la population restent signalés dans les territoires de Ouattara et Wamba. Les habitants fuient l'avancée de présumés ADF vers l'intérieur de cette province. Nord Kivu, plus de 6000 ménages déplacés à Lubero Centre manquent des kits de protection pour appliquer les mesures d'hygiène alors que l'épidémie d'Ebola progresse en RDC. Notre invité est le docteur Christian Gandou, coordinateur du Centre des opérations d'urgence des santé publique. Il fera une évaluation de 2 mois des activités de riposte contre la 17e épidémie d'Ebola en RDC. Comme annoncé au sommaire, un mouvement massif de la population est signalé dans la province du Haut-Ouélé. Selon des sources locales, au moins 10 000 personnes ont fui leur village ces dernières semaines pour rejoindre des entités jugées plus sûres. Ces déplacements sont attribués à la présence présumée des rebelles ADF dans les territoires de Ouattara et de Wamba. L'hosté civil de Ouattara confirme cette information et précise que ces combattants venus du territoire voisin des Mambasa à Nitouri progresse vers l'intérieur de la province. Face à cette insécurité, au faible déploiement des FARDC dans certaines localités, elle appelle le gouvernement à renforcer les opérations militaires afin de neutraliser ces groupes armés et rétablir la sécurité dans la région. Isaac Remoyope.
La dernière attaque attribuée aux ADF a été signalée il y a 2 semaines à Mumbere dans les territoires de Ouattara. Selon des sources locales, les assaillants se seraient ensuite dirigés vers Betongwe, à environ 95 km de Wamba. La semaine dernière, un autre groupe de présumés rebelles a été aperçu près d'une position des FARDC à proximité de Wamba avant d'être repoussé par l'armée. D'après la société civile, les ADF auraient installé leur principal bastion à Sukayamboka, au cœur de la forêt située entre les territoires de Mambasa Nitouri et les territoires de Wamba et de Ouattara dans les Haut-Ouélé. Cette situation a provoqué le déplacement de plus de 10 000 personnes, principalement des chefferies de Maha, Andobi et Keboapodo. Les déplacés ont trouvé refuge notamment à Gombari, Ouattara Centre, Moku et Giro. Selon la société civile, ce mouvement des populations est aggravé par les faibles effectifs des FARDC dans plusieurs villages. La société civile plaide pour une assistance humanitaire en faveur des déplacés et le renforcement des dispositifs militaires afin d'assurer la protection des populations et de mettre hors d'état de nuire les rebelles ADF. Jusqu'à présent, les autorités provinciales et nationales ne se sont pas encore exprimées sur cette situation. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, des bandits armés continuent d'imposer leur loi dans la commune rurale de Kassindi-Lubiria, située dans les territoires de Beni. Selon de sources locales, cette entité distante de 85 km de la ville de Beni fait face à des incursions répétées dans les habitations. Cette situation est dénoncée par la société civile locale qui voit un facteur d'appauvrissement de la population. Tout en invitant la communauté à signaler tout mouvement suspect, la société civile appelle les services de sécurité à démanteler les réseaux criminels actifs dans la région. Paul Zaidi, rapporteur de la société civile de Kassindi-Lubiria, est au téléphone de Marc Marofimbo.
Il s'observe une résurgence du banditisme dans plusieurs quartiers de Kassindi. Nous saisissons cette opportunité pour interpeller toutes les personnalités qui possèdent la mission régalienne de protéger la population et leurs biens, de s'activer et de ne pas seulement constater les dégâts pour venir mener des investigations autour de la nature du crime ou du banditisme commis dans le ménage de la commune de Kassindi, parce que ces banditismes est à la base de l'appauvrissement de plusieurs familles dans notre entité. C'est pour cette raison que nous demandons à ce que les patrouilles diurnes et nocturnes soient renforcées afin de procéder au démantèlement des réseaux des criminels et des bandits. Et nous appelons également la population à renforcer les systèmes de la vigilance à base communautaire. Ça signifie que la sécurité est une affaire qui concerne tout le monde. Nous ne devons pas nécessairement croiser les bras et observer les exploits qui seront fournis par les services de sécurité et de l'ordre.
Nous restons Nord Kivu, mais cette fois-ci, nous ouvrons la brèche sanitaire où plus de 6000 ménages déplacés vivent à Lubero Centre, chef-lieu du territoire de Lubero, dans des conditions de grande précarité. Faute des savons, des kits, des lavages de mains et d'autres moyens de prévention, ils peinent à appliquer les mesures barrières contre Ebola. La société civile alerte sur leur vulnérabilité et appelle le gouvernement ainsi que les organisations humanitaires à intervenir en urgence. Mwindo Tafuteni, président de la Société civile des territoires de Lubero, explique au téléphone de Martial Papimoukeba.
À la commune de Lubero, où le concentre plus de déplacés, on reconnaît qu'il y a autour de 6256 ménages qui sont répartis dans des sites et des familles d'accueil. Quant à ce qui est de leur situation, c'est très compliqué. Ils sont dépourvus de beaucoup de moyens. Et donc, il y a un problème par rapport à ce qui est de la maladie à virus Ebola. Donc, trouver des kits de lavage de mains, trouver du savon et tout ce qui peut être nécessaire pour les mesures barrières pour les déplacer, c'est vraiment compliqué. C'est dans ce sens que nous, l'asso NSOS, pour que le gouvernement et en particulier les humanitaires puissent voir comment intervenir pour que les déplacés soient aussi protégés par rapport à ce qui est de cette maladie.
Alors, on fait un état des lieux de la maladie à virus Ebola. Actuellement, 37 zones de santé sont touchées par cette maladie en République démocratique du Congo, dont 20 en Ituri, qui concentre 80% des cas confirmés au niveau national et 11 au Nord Kivu. La maladie s'est également propagée dans le province de la Tchopo, du Sud Kivu et du Haut-Ouélé. Pourquoi cette épidémie gagne-t-elle d'autres provinces? Écoutez la réponse du gouverneur du Haut-Ouélé, Jean Bakomito Ngambu, qui intervenait dans l'émission Dialogue entre Congolais dans cet extrait choisi par Richard Junior Kamunga.
Il y a beaucoup de facteurs. Il y a la mobilité. Il y a une forte mobilité. Par exemple, pour le Haut-Ouélé, c'est 51. Au niveau de Nyanya, 51. Et la province du Haut-Ouélé, notamment avec les territoires de Wamba. Il y a une forte circulation de personnes et de biens. Mais aussi l'information dans certains milieux qui ne circulent pas, comme c'est le cas, par exemple, dans la ville d'Isiro. Ici, il y a possibilité que nous puissions atteindre facilement la population. Alors que dans la zone, par exemple, des 51 et autres, c'est un peu difficile avec tout ce qu'il y a comme foyer minier, avec tout ce qu'il y a comme activité là-bas. C'est un peu difficile. Mais également la résistance. La résistance, la population a difficile à croire. Certains ont difficile à croire encore à cette maladie. Ils pensent que c'est un montage alors que la maladie existe bel et bien. Mais également cette résistance, il y a certaines personnes qui refusent de se faire tester, par exemple. Ils ne veulent pas de thermomètre, ils ne veulent pas laver les mains, observer les mesures barrières.
Parlons d'un médecin membre du CIMECO, qui est le syndicat des médecins du Congo, qui attend du gouvernement l'ouverture d'un dialogue sincère susceptible d'aboutir à une solution à la grève qui paralyse actuellement les secteurs de la santé en RDC. Lors d'une rencontre avec le média lundi à Kinshasa, le secrétaire général de cette organisation syndicale, Dr Juvenal Mwanda, a déploré le non-respect des engagements pris par l'État envers les médecins. Il a notamment évoqué les discussions menées avec le ministère des Finances à la fin du mois de juin et avec celui de la Santé au début du mois de juillet, qui n'ont pas répondu aux attentes sociales minimales des praticiens du secteur public. Les propos du docteur Juvenal Mwanda, recueillis par Blaise Nogalama Yanda.
Les séances de travail du 23 juin 2026 et du 7 juillet n'ont pas permis de rencontrer toutes les attentes. En l'occurrence, l'intégration totale de la paie complémentaire au T3 2026, la paie de tous les arriérés cumulés, la reprise de la programmation ininterrompue de l'aliment à la prime des risques professionnels et de la mécanisation, ainsi que la prise des actes de régularisation administrative. Un sursaut patriotique est encore possible pour arrêter les conséquences néfastes de cette grève des médecins qui se poursuit encore dans tous les services sanitaires publics de l'État. Tout en réaffirmant son attachement au dialogue social sincère, le CIMECO demande au gouvernement de la République d'ouvrir un dialogue direct et sincère avec les 4 syndicats de médecins pour restaurer la quiétude dans les secteurs de la santé. À tous les médecins des services publics de l'État membres du CIMECO, de rester mobilisés et vigilants et de continuer à observer la grève dans la discipline et le strict respect des lois de la République. À la population enfin, de soutenir les médecins des services publics de l'État dans la défense de leurs intérêts légitimes et légaux.
Vous suivez Radio Okapi à Lutunkulu. Nous sommes dans le site Kivu et nous vous remercions. 52 cas de diarrhée aiguë, dont 11 décès ont été enregistrés entre le 23 juin et 7 juillet 2026 dans la zone de santé de Mulungu en territoire de Chabunda. Selon les autorités sanitaires, la majorité des patients présentent une déshydratation sévère, ce qui suscite une vive inquiétude dans cette zone déjà confrontée à d'importants défis des prises en charge médicales, notamment dans l'ère de santé de Lubila. Benjamin Mundumbi nous donne des détails.
Dans une alerte épidémiologique publiée la semaine dernière, les médecins chefs de zone, Dr Pacifique Kapimbu Wilonja, indiquent que ces cas ont été recensés entre la 26e et 27e semaine épidémiologique. 11 patients ont perdu la vie, soit un taux de létalité de 21,1%, jugé particulièrement élevé. Les statistiques relèvent que les personnes âgées de 18 à 50 ans sont les plus touchées. Toutefois, les cas des enfants de 1 à 5 ans sont aussi affectés. Selon lui, les premières investigations montre que les populations concernées s'approvisionnent principalement en eau dans les rivières Lobila et Olindi, ce qui pourrait favoriser la propagation de la maladie. Les médecins chefs de zone rappellent que l'aire de santé de Lobila est régulièrement confrontée à des flambées de diarrhée aiguë pendant la saison sèche. Malgré cette récurrence, aucun appui extérieur n'a encore été mobilisé pour renforcer les activités de riposte. Face à cette urgence sanitaire, ils préconisent un renforcement de la surveillance épidémiologique, une investigation approfondie des facteurs de risque, une prise en charge rapide de malades et une intensification des campagnes de sensibilisation sur les jeunes, le traitement des loups et l'assainissement du milieu. Il lance enfin un appel pressant aux partenaires techniques et financiers ainsi qu'aux organisations humanitaires pour obtenir un appui en médicaments, solutions de réhydratation, produits de traitement du loup et moyens logistiques afin de prévenir une aggravation de la situation et d'éviter de nouveaux décès.
Le fuite d'eau de la régie des eaux devient de plus en plus abondante sur le tronçon allant de l'entrée Rigini sur la route bypass jusqu'au triangle et à l'entrée de l'université de Kinshasa, communément appelée trafic sur la route Kimwenza. Mélangée aux eaux usées des caniveaux et aux immondices, elle provoque la formation de vastes flaques de boue et des inondations, rendant ces lieux très fréquentés difficiles à supporter en raison de mauvaises odeurs qui y s'en dégagent. Les usagers de la route ainsi que les riverains dénoncent cette situation et appellent à une intervention urgente des autorités compétentes. Reportage de Jean-Marie Kanaimba.
Le fuite d'eau de la régie des eaux observé depuis plusieurs jours, voire plusieurs mois, sur la route bypass et aux abords de l'université de Kinshasa, sur la route Kimwenza, constitue une préoccupation majeure pour les usagers et les riverains. Issus de conduites vétustes, ces eaux se mélangent à celles des caniveaux souvent obstrués, formant des flaques de boue et dégageant des odeurs nauséabondes. Les habitants et les patients s'inquiètent notamment des risques de maladies liés à l'insalubrité et appellent les autorités compétentes à procéder au remplacement urgent de conduites défectueuses.
L'eau provient des tuyaux qui partent de la direction de Mongafula et du site universitaire. Mais ces tuyaux sont déjà vieux et portent des fuites par-ci par-là causant des grandes flaques d'eau. Les propriétaires ne font pas le suivi de leurs tuyaux et c'est ce que nous subissons des conséquences de ces fuites d'eau non canalisées. C'est ça le problème que nous reprochons aux responsables de ces tuyaux et de la régie des eaux.
De leur côté, les autorités de la zone de Rigini reconnaissent l'ampleur du problème. Selon elles, la vétusté du réseau de distribution constitue le principal obstacle à une solution durable. Elles assurent toutefois qu'une réhabilitation est envisagée dans le cadre de l'opération Kinelenda. En attendant, le renouvellement des tuyaux et l'amélioration du système de canalisation apparaissent comme une urgence pour mettre fin à ces écoulements et contrôler dans ces zones stratégiques de la capitale.
Nous parlons toujours eau et électricité, mais cette fois-ci au Nord Kivu, les difficultés d'accès à l'eau potable et à l'électricité sont au cœur d'un forum provincial ouvert lundi à Butembo. Pendant 2 jours, autorités, opérateurs du secteur, partenaires techniques, représentants des consommateurs réfléchissent ensemble à des solutions pour améliorer ces services essentiels dans une ville qui compte plus de 2 millions d'habitants. Détail avec Martial Papimoukeba.
Améliorer l'accès à l'eau potable et à l'électricité, c'est l'objectif du forum provincial ouvert ce lundi à Butembo par les gouverneurs militaires du Nord Kivu. Les participants dressent un état des lieux de la desserte en eau et en électricité. Ils examinent également les cadres réglementaires et les principaux obstacles qui freinent l'amélioration de ces services. Les échanges portent aussi sur les conséquences de ces déficits pour les ménages, les activités économiques et les populations les plus vulnérables. À Butembo, de nombreuses familles s'approvisionnent encore dans des sources aménagées faute d'accès à l'eau potable. Quant à l'électricité, elle demeure inaccessible pour une grande partie de la population malgré les besoins d'une ville où les activités commerciales dépendent largement de ces infrastructures. Les recommandations attendues à l'issue des travaux devraient servir de feu de route aux autorités et aux différents acteurs du secteur en fait d'améliorer durablement l'accès à ces services essentiels. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'actualité internationale, c'est les prix du pétrole qui ont augmenté de près de 3% ce mardi pour atteindre leur plus haut niveau en 4 semaines, alors que les États-Unis ont réimposé leur blocage naval à l'Iran et que les deux pays ont intensifié leurs attaques dans les détroits d'Ormuz, accentuant l'incertitude sur le flux énergétique.
L'invité.
17e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Des mois se sont écoulés depuis sa déclaration officielle, initialement circonscrite à la seule province de l'Ituri. Cette épidémie de souche Bundibugyo s'est désormais propagée à 5 provinces du pays, à savoir le Nord Kivu, le Sud Kivu, la Tchopo, le Haut-Uele, en plus de l'Ituri qui reste son épicentre. Le docteur Christian Gandou, coordonnateur du Centre des opérations d'urgence des santé publiques, intervenait hier soir dans l'émission Dialogue entre congolais. Il dresse une évaluation de la lutte contre cette épidémie 2 mois après son apparition officielle. On l'écoute au micro de Guy Maté.
Docteur Christian Gandou, vous êtes coordonnateur du Centre des opérations d'urgence des santé publiques. Quelle est l'évaluation que vous faites de la lutte contre cette épidémie de la maladie à virus d'Ebola 2 mois après sa déclaration officielle?
Au jour d'aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 58 jours depuis le lancement de la réponse le 15 mai 2026. À 58 jours, nous avons eu à déployer suffisamment des équipes d'intervention rapide dans l'épicentre, dans les zones de santé qui sont les plus affectées. Et nous avons aussi déployé des équipes d'intervention rapide dans les zones de santé qui sont en préparation pour essayer de limiter les risques d'expansion de la maladie en dehors de l'épicentre. Et ça, c'est aussi un élément très important. On n'a jamais déployé autant d'équipes d'intervention rapide dans moins de temps comme on vient de le faire pour cette 17e épidémie. Et c'est pour cette raison que nous avons au moins une image réelle de l'épidémie aujourd'hui avec la notification qui se présente actuellement. C'est une notification que nous avons eue dans peu de temps.
Et s'il faut parler des bonnes nouvelles par rapport à la lutte contre cette maladie, docteur Christian Gandou, il y a notamment tous ces patients guéris. Et les autorités sanitaires parlent de plus de 295 personnes déclarées guéries. Mais sur plus de 1900 cas confirmés, 295 guéris, pour vous, est-ce un succès ou bien c'est plutôt mitigé, ni totalement positif, ni totalement négatif?
Oui, je crois que la guérison, c'est toujours le symbole de la victoire de la vie sur la mort. C'est vraiment très symbolique. C'est aussi l'expression des personnes qui peuvent essayer de porter le message d'espoir dans la communauté et qui peuvent renforcer la confiance des communautés par rapport au système de santé.
2 mois après sa déclaration officielle, cette épidémie s'étend dans 2 nouvelles provinces, le Haut-Uele et la Tchopo. Docteur, peut-on dire que l'extension de cette maladie confirme les allégations de certains experts selon lesquels cette épidémie est hors contrôle?
La maladie s'est maintenue dans l'épicentre, dans les zones de santé hotspot, qui sont les zones de santé qui ont confirmé le plus grand nombre de cas. Donc nous avons au moins 6 zones de santé qui détiennent 90% des notifications et même des confirmations des cas. Donc c'est là où on a mis l'essentiel des activités, mais on n'a pas aussi oublié les zones de santé qui sont en dehors de cela. Donc, les cas que nous avons, soit à la Tchopo ou qu'on a identifié à Wamba, ce sont des cas qui échappent de l'épicentre. C'est parce qu'il y a des interventions qu'on a mises en place qu'il y a quelques cas qui échappent seulement. en dehors de ces interventions, je crois qu'on aurait vraiment une maladie qui évoluerait naturellement. Donc, nous sommes en train de travailler aussi par rapport à ces cas qui ont échappé de l'épicentre pour qu'ils ne puissent pas produire des cas secondaires et que nous puissions en finir le plus rapidement possible. Donc, nous sommes très déterminés avec nos équipes sur terrain pour avancer. Et je crois qu'à ce titre-là, même la communication, il y a des équipes, des spécialistes de communication qui sont sur terrain. Les 21 communautés de l'Ituri ont été formées, informées et impliquées par rapport à cela pour essayer d'avancer.
Docteur Ngandou, que répondez-vous à Luc Malembe qui estime que la gestion financière elle est opaque?
Bon, la gestion financière n'est pas opaque parce que tout est transparent. Nous montrons clairement comment est-ce que les budgets sont mobilisés. Nous remercions à cet effet la République parce que le gouvernement de la République a disposé des moyens pour que nous puissions répondre par rapport à cela. Mais les moyens que nous investissons au niveau de différentes provinces sont connus et nous impliquons les divisions provinciales de la santé qui sont aussi impliquées.
Mais ces moyens ne sont pas suffisants pour bien payer, n'est-ce pas, les personnels soignants? Parce que ces personnels se plaignent.
Oui, la question de paye n'a pas été correctement abordée. Excusez-moi, je vais vous le dire, parce que nous avons déjà payé le maximum de personnes. Au Nord Kivu, en Ituri, on a payé les personnels. Et ici, ce sont des personnels qui devraient être payés par les organisations. Et ça traîne un peu, mais ce sont des questions qui ont déjà été résolues rapidement pour que ça puisse avancer. Mais la majorité des personnels, que ce soit les acteurs de réponse, que ce soit les acteurs qui travaillent dans les centres de traitement, ils ont été payés.
C'est la fin de cette édition du journal coordonnée par Junior Kamunga, mise en onde par Alain Goy, dans une présentation de Ronéline Tibonera. Je vous laisse suivre d'autres programmes sur Radio Okapi.